on parle, Claude, d'une hippocagne.
L'hippocagne du lycée Henri IV à Paris. Une classe préparatoire littéraire où, pour la première fois il y a 40 ans, une jeune femme se sentit vraiment en France. Elle qui avait fui le Vietnam communiste avec sa mère et ses sœurs et qui depuis se sentait, dirait-elle plus tard, dans un état d'apesanteur sans présent, ni passé, ni futur. Ainsi parlait d'elle-même l'écrivaine Linda Lay, qui est morte hier et dont la vie dépendait des mots. Nous la redécouvrons, comme trop souvent les personnes précieuses, juste un moment trop tard, parce que nous disent d'elle des journalistes dont c'est la vocation de nous passer la littérature. Alors, sur les sites de Libération, de L'Obs, du Figaro, et puis du Monde et de Télérama qui remettent en ligne de splendides entretiens de Linda Lay vivante, nous prend une femme qui aimait les mots incandescents. Elle disait qu'il faut qu'un texte phosphorise et que les livres soient des brasiers. Elle avait écrit Lettre morte, un roman en hommage à son père, dans un état de combustion. Ses textes étaient de délicates eaux fortes enténébrées de fantômes. Elle disait aussi que la littérature naissait de la perte. Elle connaissait cela. Quittant le Vietnam, elle avait perdu son père, resté au pays. Il lui envoyait des lettres. Sa mort loin d'elle la pousserait aux marges de la folie. Il lui avait donné cet homme le goût des livres. Mais quand les communistes avaient pris Saigon, un agent de purification culturelle du nouveau pouvoir était venu prendre les livres étrangers de la famille, parmi eux Les Misérables de Victor Hugo, qui lui avait donné le goût d'écrire. À côté de ses romans, au style âpre et violent, elle célébrait celles et ceux écrivant avant elle qui l'avaient sauvée. Elle chroniquait la littérature sur l'excellent site En attendant Nado. Elle disait, comme Sioran, que le meilleur livre est l'ami des temps difficiles. Elle croyait voir dans la rue un héros dostoïevskien. Elle citait un poète breton, Armand Robin, « Je serai pour toute terre un étrange étranger » et la poétesse russe Marina Tsvetaeva, « Je ne suis pas faite pour la vie, je suis une écorchée alors que vous portez tous une armure ». Son dernier livre racontait la rencontre entre Ho Chi Minh, le leader communiste de l'indépendance vietnamienne, et Ossip Mandelstam, le poète russe, qui avait écrit ceci. Cela donne son titre au livre. « De personne je ne fus le contemporain, nous fûmes les siens pourtant ». Et donc, après avoir lu cette femme dans L'Obs, dans Télérama, dans Le Monde, dans Libération, dans Le Figaro, je lis comme dans une rêverie funeste ces mots dans Libération à nouveau, mais l'édition de papier. La prestigieuse prépa littéraire du lycée Henri IV, oui, la même hippocagne que celle où Linda Lay s'était sentie française, mais qui aura été pour de jeunes femmes de maintenant un lieu où elles sont tombées sous la coupe d'un professeur de lettres charismatique, théâtral, brillant, mais qui s'emparait d'elles jusqu'à suspendre leurs sentiments et les amener, oui, bien sûr, dans son lit. Je l'ai laissé me déshabiller, j'étais pétrifié comme dissocié de mon corps, je tremblais de peur, mais je me sentais redevable, dit l'une de ces jeunes femmes qui, dans sa blessure, garde le goût des mots. Ce pourrait être aussi bien un roman vénéneux, mais les poisons sont vrais.
On parle aussi d'odeur ce matin.
Mais ce sont, Léa, encore des livres qui les portent, car les vieux livres, nous dit Lacroix, exaltent une odeur de vanille, des notes de chocolat et de caramel. On dirait une crème glacée, dit une chercheuse Victoriane Michel, dans la bibliothèque du XVIIIe siècle de la cathédrale Saint-Paul de Londres. Elle fait partie, cette femme, d'une équipe d'historiens, de parfumeurs, d'analystes de données qui travaillent à une encyclopédie olfactive qui va préserver, recenser, dire, analyser, reconstituer les odeurs qui nous accompagnent depuis des millénaires. Ils s'appuient, ces chercheurs, sur l'intelligence artificielle, qui donc n'a pas que des défauts. Ce matin, nos journaux nous enrichissent de leur mémoire. Dans le conflit ukrainien, l'équipe raconte les footballeurs de Kiev qui, sous l'occupation nazie, furent tués par l'ennemi. Ils furent après la guerre des légendes de l'Union soviétique. SoFoot nous ramène une autre histoire de ballon. Celle-là vient de l'Allemagne communiste qui, dans les années 70, abritait une équipe Magdebourg, une bande de copains assez soudés pour aller chercher une Coupe d'Europe et pour échapper à la chape de plomb du régime. Leur entraîneur, Krügel, avait envoyé sur les roses l'agent de la Stasi qui lui apportait les bandes enregistrées de l'entraîneur du Bayern Munich, équipe de l'Ouest que Magdebourg allait affronter. « Jeune homme, vous n'aimez pas le football, vous ne comprenez rien. À la mi-temps, un entraîneur a autre chose à faire que mettre les autres sur écoute. »
Et il fut débarqué.
Bah oui, il fut débarqué.
On parle aussi d'une révolution sociale.
Qui, il y a 30 ans, raconte la Voix du Nord, renversa à Dunkerque la CGT des dockers, qui était partie en grève et bloquait le port, et fut défiée par un syndicat dissident, qui voulait négocier quand bien même on était exploité. Ce fut chaud, entre des colosses qui alors dans leur vie charriaient des sacs de 100 kilos. La CGT perdit, un nouveau statut des dockers se mit en place, qui a transformé ces travailleurs indépendants en salariés mensualisés. La mécanisation est venus, les conteneurs, liches sont l'avenir d'un port de Dunkerque où depuis 30 ans il n'y a plus de grève. Est-ce une histoire à suivre en autant hésitant ? Dans Sud-Ouest, Cité Papier, on nous raconte, c'est souvent émouvant, la révolution des mœurs en Argentine, qui est un pays pionnier en matière de reconnaissance de la vérité des transgenres. On nous raconte ainsi un petit garçon qui, à 20 mois, avait dit à sa famille « Je suis une fille, je suis une princesse » et qui, à 6 ans, est devenue Luana, premier enfant au monde à faire la traversée. Dans Le Monde, j'en termine, vous allez lire le portrait d'un maire consolateur. Il se nomme Bernard Mounier. Il y a bientôt un an, son village du Gard, Les Plantiers, 258 habitants, a connu une tragédie, un double meurtre perpétré par un jeune homme. Dans La Tourmente, Bernard Mounier avait mis à l'abri les familles des victimes et la famille du meurtrier et après La Tourmente a accompagné son village vers la cohésion. Dans Une vie antérieure, cet homme qui a lu Edgar Morin, Boris Cyrulnik, Stéphane Hessel et puis la Bible, fut consultant pour l'ONU. Il intervenait en Afrique pour guérir les esprits après les conflits. Dans les Cévennes, c'est la même mission, écarter la haine. À la présidentielle, dans son village, Marine Le Pen est arrivée en tête. De cela aussi, monsieur le maire veut se relever.
Merci Claude pour cette revue de presse.